c'est debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, dans le coq chante, nous allons dans un monde minuscule pour l'observateur, le monde des abeilles. Des chercheurs viennent de découvrir qu'il y a dans la nature des espèces d'abeilles qui sont capables de protéger la ruche et ils les ont appelées des abeilles hygiéniques. Avant d'aller plus avant, voyons les grandes lignes du problème. L'agriculture n'est pas possible sans abeilles et autres pollinisateurs. Pour l'apiculteur, il lui faut produire assez de miel pour rentabiliser son investissement et son temps de travail. Or, comme tout être vivant, l'abeille a aussi ses ennemis. Les industriels qui s'occupent du monde agricole savent produire des molécules chimiques pour lutter contre les ennemis d'une colonie d'abeilles. Problème, ces produits chimiques laissent des traces et des résidus dans le miel produit. Et c'est là que la recherche scientifique entre en jeu. Yves Lecomte est chercheur à l'INRAE dans l'unité abeilles et environnement. Précisons que l'INRAE, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Une première question à ce chercheur, comment est organisée une colonie d'abeilles?
Une ruche d'abeilles, on parle aussi de colonie d'abeilles. Donc colonie, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'individus, plusieurs dizaines de milliers d'individus dans une colonie d'abeilles. Et cette colonie d'abeilles, elle comporte une reine, une seule. Et le reste, ce sont des milliers d'ouvrières, qu'on appelle abeilles ouvrières. Et pendant la belle saison, quelques milliers de mâles qui vont féconder les reines vierges. Et ces abeilles ouvrières, c'est elles en fait qui font le job de structurer la colonie, construire le nid avec les rayons. Dans ces rayons, elles vont mettre leurs petits, la reine va pondre ses œufs qui vont devenir des larves. Les larves vont être nourries par les ouvrières pour devenir des nymphes. Et ces nymphes, quand elles seront prêtes à émerger, donneront des jeunes petites abeilles. Alors, ces ouvrières, en fait, elles vont travailler sur les différentes tâches en fonction de leur âge.
C'est-à-dire qu'il y a celles qui construisent les alvéoles.
Oui.
Il y a celles qui s'occupent de nourrir les larves.
Voilà.
Il y a celles qui s'occupent de la défense.
Les gardiennes.
Oui.
L'ultime, c'est les abeilles butineuses qui vont aller chercher le nectar pour en faire du miel, le pollen pour se nourrir de protéines, en fait, et puis de l'eau parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau.
Cette question d'abeilles m'a intéressé parce que l'agriculture n'est pas possible sans abeilles, ce que vous appelez les auxiliaires de culture.
C'est pour ça que les abeilles, il faut absolument les protéger parce que non seulement elles vont optimiser les productions des cultures réalisées par l'homme pour se nourrir, mais également toutes ces abeilles, les 200 000 espèces d'abeilles qu'il y a sur la planète, ces abeilles-là, elles vont aller polliniser un certain nombre de fleurs, de plantes qui ne sont pas forcément des plantes intéressantes pour l'homme, mais des plantes qui sont intéressantes dans la nature pour participer à l'écologie.
Ce que vous appelez la biodiversité.
Exactement. C'est pour ça qu'il faut protéger ces abeilles, pour protéger la biodiversité.
Alors vous avez fait une étude sur les abeilles hygiéniques. C'est quoi d'abord
oui.
Une abeille hygiénique?
Alors, on peut parler d'immunité. Chaque individu a ses propres défenses immunitaires, mais en plus, comme elles sont en société, en colonie, les abeilles ont développé ce qu'on appelle une immunité sociale.
Attendez, je veux voir si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est-à-dire que nous, organismes vivants, y compris les humains, on a un système immunitaire qui fait que quand une infection arrive, le corps peut faire des réponses.
Voilà.
Et si le corps ne réussit pas à faire des réponses, c'est là où l'agent infectieux prend le dessus et on tombe malade.
Voilà. Et en ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le médecin, bref, et on va à la pharmacie acheter des médicaments pour nous nourrir.
Ce qu'une abeille ne peut pas faire.
Alors si, les abeilles, on vient de montrer que les abeilles aussi, elles vont récolter ce qu'on appelle la propolis. C'est une espèce de gomme qu'elles trouvent sur les arbres, dans la nature. Et cette gomme a des effets antiviral, antibactériens, etc. Si vous voulez, nous aussi, l'homme, on a un comportement d'immunité sociale. C'est-à-dire, on va se faire soigner par les autres. Eh bien, les abeilles, elles font la même chose.
Ce comportement hygiénique est possible parce que l'abeille a un odorat très développé. Il se trouve que les alvéoles parasitées émettent un cocktail spécifique de molécules qui déclenche chez certaines abeilles un comportement hygiénique consistant à percer et nettoyer les alvéoles contaminées et permettant ainsi de préserver la colonie.
Exactement. Et elles ont un système olfactif extrêmement bien développé. Et tellement développées qu'elles sont capables, quand elles naissent, ces petites abeilles, d'apprendre l'odeur de la colonie. Et chaque colonie a sa propre odeur, pour éviter que les abeilles de la colonie d'à côté viennent piller les ressources. Elles s'aperçoivent que c'est une abeille étrangère qui vient piller et paf, elles la mettent dehors.
Rien qu'à l'odeur.
Rien qu'à l'odeur. Donc elles ont des capacités de détection d'odeur et même après d'apprentissage extrêmement élaborées. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec notre varroa ?
Ah, justement, j'allais vous poser la question parce que tous les apiculteurs m'ont parlé de ce varroa. Alors, c'est quoi ce varroa qui fait peur à tout le monde ?
Alors, ce varroa, c'est un acarien. Un acarien, c'est comme les tiques, vous voyez, les tiques de chien, tout ça, ce sont des acariens. Ça, c'est un peu la même chose, c'est un acarien. Et le varroa, initialement, il parasitait une abeille asiatique qui s'appelle Apis serrana. Et puis, nous, on a exporté nos abeilles mellifères, Apis mellifera, vers ces pays-là parce qu'elles produisent beaucoup plus de miel. Mais manque de chance, il y a des varrois qui ont réussi à aller parasiter notre abeille, Apis mellifera, l'abeille européenne, africaine et du Moyen-Orient. Et donc là, ça a été catastrophique parce que cette abeille, notre abeille, elle n'est pas du tout adaptée aux varrois. Et donc, le varroa, si on fait rien, eh bien, le varroa se multiplie tellement qu'il tue la colonie d'abeilles.
Toute la colonie ?
Ah oui.
En fait, ce varroa a besoin de l'abeille pour vivre et a besoin de la colonie pour se reproduire.
Exactement. Alors, le varroa, il se reproduit effectivement dans les cellules, dans les alvéoles qui contiennent une larve. Il se fait enfermer derrière l'opercule de l'alvéole. Cet alvéole comprend la larve. Et puis, la larve va se transformer en nymphe. Et une fois qu'elle est transformée en nymphe, le varroa, il va commencer à pondre un œuf, deux œufs, trois œufs, etc., pour donner un mâle et puis au moins deux femelles filles. Voilà. Et si les abeilles font rien, quand la jeune abeille va émerger, d'abord elle sera malade et ensuite elle va libérer au moins deux femelles filles. Deux femelles varroa.
Même si l'ennemi est dangereux, on a déjà observé que certaines colonies d'abeilles sont capables de survivre à l'acarien en l'absence de traitement. Et en analysant leur comportement, les scientifiques ont remarqué que certaines abeilles sont capables de détecter les parasites dans l'alvéole où il est présent.
Eh bien, nos abeilles hygiéniques, elles ont la capacité de détecter les alvéoles qui sont parasités par le varroa.
Oui.
Elles ouvrent ces alvéoles et elles mettent tout le contenu de l'alvéole dehors. Et donc, ça empêche le varroa de se reproduire et ça limite comme ça la dynamique des populations des varrois.
D'accord.
Voilà.
Alors, vous avez mené cette étude avec l'INRAE, le CNRS, oui. Le Centre national de la recherche scientifique, l'Université de Rennes 1 et de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande. C'est un travail qui a mobilisé beaucoup de scientifiques.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? Nous, ce qu'on voulait, c'est savoir comment les abeilles détectent la cellule infectée pour la détruire.
Ah, donc on savait qu'elles le faisaient, mais on ne savait pas comment elles réussissaient à détecter
voilà,
le problème.
Exactement. Voilà. Et comme on est spécialiste de la communication chimique chez les abeilles, on s'est dit, on va essayer de trouver le message chimique qui permet aux abeilles de dire, oui, voilà une cellule infestée et il faut que je vire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc pour ça, on a développé des techniques de chimie et on a découvert 6 molécules qui sont émises à partir de ces cellules parasitées et qui donc ne sont pas émises dans les cellules qui sont non parasitées. Donc on a identifié ces molécules-là, on les a synthétisées et puis on les a testées sur le comportement des abeilles.
Ah, c'est-à-dire que vous êtes allé infecter exprès des opercules pour voir comment les abeilles vont réagir.
Voilà, exactement. On a déposé ces molécules sur les opercules, ou en fait juste derrière les opercules. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les abeilles ont désoperculé ces cellules-là, alors que les cellules qui n'avaient pas ces molécules n'étaient pas désoperculées.
Comment fonctionnent ces messages chimiques? Comment tout cela fonctionne?
Alors, les odeurs, en fait, c'est comme notre nez. C'est exactement la même chose que notre nez, sauf que les abeilles, elles n'ont pas de nez de la même structure que nous, elles ont des antennes. Et donc, sur ces antennes, il y a énormément de récepteurs olfactifs. Et donc, ces récepteurs peuvent détecter un certain nombre de molécules, même beaucoup de molécules. Et ensuite, une fois que ces molécules sont détectées par les antennes, le signal passe par les nerfs olfactifs, jusqu'au cerveau. Et donc, ce message est traité par le cerveau de l'abeille. Donc ça, c'est des mécanismes qu'on connaît bien, que les chercheurs ont mis en évidence il y a à peu près une quarantaine d'années jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment se passe l'influx nerveux à partir du nerf antennaire jusqu'au cerveau, tout ça, on commence vraiment à bien le connaître.
Donc ça commence au niveau des antennes, ça va au cerveau. Le cerveau traite le message pour voir s'il y a 6 des molécules que vous venez de dire.
Voilà, exactement. C'est le signal qui est spécifique de ces 6 molécules qui va être traité par le cerveau et qui va induire chez certaines colonies ce comportement. Alors pourquoi je dis certaines colonies, c'est très important. Parce que parmi nos abeilles, vous avez des colonies qui développent ce comportement hygiénique et d'autres qui ne le développent pas. Et alors ce qu'il y a maintenant, c'est que les apiculteurs, ils sont très intéressés de pouvoir sélectionner leurs colonies sur ce caractère. Or, ce comportement, il est très compliqué et surtout, ça demande beaucoup de temps de savoir si nos colonies, elles ont ce comportement ou pas.
On voit tous les avantages de cette découverte par les scientifiques. Le problème, c'est comment et avec quels outils l'apiculteur pourrait-il intervenir, et à ce niveau également, il va falloir innover.
Alors ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est faire un spray sur une surface de couvain connue. Donc là c'est facile, on ouvre la ruche, on fait un spray sur du couvain, et puis on revient, pas 3 heures après ou 4 heures après, et on regarde si elles ont désoperculé ces cellules-là. Si elles n'ont pas désoperculé, c'est qu'elles ne sont pas résistantes sur ce critère d'hygiénisme. Et si elles les ont désoperculées, c'est qu'effectivement, elles sont hygiéniques. Et donc, on va conserver ces colonies pour faire la sélection.
Si je comprends bien, vous avez fait votre travail de recherche. Oui. Vous êtes arrivé à détecter ce comportement chez certains types d'abeilles. Oui. Maintenant, le tout, c'est de passer à une utilisation pratique de cette découverte.
Voilà, exactement. Tout à fait.
Oui, mais si je suis apiculteur et que j'ai 400 ruches, vous imaginez?
Si je suis apiculteur et j'ai 400 ruches, déjà, je vais faire un premier screening en conservant que celles qui sont bonnes pour le miel. Et puis ensuite, sur les 50 colonies que je vais sélectionner sur la production de miel, par exemple, eh bien, ces 50 colonies-là, je vais essayer de savoir si elles sont hygiéniques ou pas. Et donc, c'est celles qui auront une bonne production de miel et qui seront hygiéniques que je vais utiliser dans ma sélection pour les années à venir.
Ce varroa sur le monde entier aujourd'hui, donc votre technique est utilisable par toutes sortes d'apiculteurs et dans tout pays.
Voilà, exactement. Il y a deux conclusions, si vous voulez. Il y a la conclusion du chercheur Nous, on est bien contents parce qu'on a décrypté en partie les mécanismes. Alors, on n'est pas les seuls, hein. Il y a d'autres chercheurs qui ont fait des découvertes intéressantes dans ce sens-là aussi. Mais nous, on a fait notre job et on est bien contents parce qu'on a répondu à la question qu'on se posait. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, on espère vraiment que cette découverte pourra déboucher sur une méthode de sélection des abeilles sur ce critère d'hygiénisme vis-à-vis du varroa. Alors le varroa, de toute façon, il est présent dans toutes les colonies.
À quoi qu'il arrive, donc, il est là, cet acarien.
Voilà, il y en a partout et je pense qu'on s'en débarrassera jamais.
C'est-à-dire qu'avant, on faisait un traitement, on avait un traitement chimique contre ce varroa. Le problème, c'est de ne pas contaminer le miel.
Oui, voilà. Alors là, on a des techniques pour ça. C'est notamment, il y a des produits avec autorisation de mise sur le marché qui empêchent en fait l'apparition de résidus, qui n'empêchent pas complètement, mais il y a des résidus qui sont bien en dessous de ce qui est accepté. Par les instances administratives.
Pour la consommation, quoi.
Voilà, pour protéger le consommateur. Si vous voulez, même en utilisant ces molécules-là, il reste toujours des varrois dans les colonies et le varroa, on l'aura toujours, quoi.
Alors que votre découverte, on n'a plus besoin de ce traitement chimique avec des résidus dans le miel, et c'est l'apiculteur qui sélectionne l'espèce qui lui convient.
À terme, c'est ce qu'on souhaite, c'est que les apiculteurs peuvent éviter d'utiliser ces molécules. Alors, on n'en est pas de là, mais on a déjà en France et en Europe et de par le monde des populations d'abeilles mellifères qui résistent naturellement à l'acarien. Donc, vous ne les traitez pas et puis elles résistent au varroa. Eh bien, on revient à ce comportement hygiénique parce que ces colonies qui résistent naturellement, elles sont hygiéniques au varroa.
Dès que le varroa arrive, ces abeilles hygiéniques entrent en action.
Voilà. Et alors, les abeilles, elles n'éliminent pas tous les varrois, mais elles font en sorte de baisser le nombre de varrois, la population de varrois, pour que ça ne soit pas préjudiciable pour la colonie et qu'elle n'en meure pas, finalement.
Oui, parce qu'une colonie qui meurt, pour un apiculteur, c'est une grosse perte.
Ah oui, tout à fait. Les grosses pertes de colonies de 20-30% du cheptel... Pendant l'hiver, c'est quelque chose qui est difficilement supportable par les apiculteurs. Donc actuellement, les apiculteurs, ils sont vraiment malmenés par le varroa, mais aussi tous les stress qui sont à l'extérieur, quoi. Les pesticides, le manque de nourriture, le réchauffement climatique, enfin voilà, ces pauvres abeilles, elles sont vraiment malmenées.
Monsieur Lecointe, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie pour vos explications.
Je vous en prie, monsieur, c'était avec grand plaisir.
Merci. Nous étions en compagnie de monsieur Yves Lecoq, chercheur dans l'unité abeilles et l'environnement à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ce chercheur nous parlait des abeilles hygiéniques dont le rôle consiste à protéger une colonie d'abeilles des infections extérieures. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
Autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge avec